Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à tous, il paraît qu'on a entendu Denis Charvet fredonner du Catherine Lara à la sortie du Stade de France samedi soir. Nuit magique, c'est au-delà des goûts du musicaux de notre consultant vedette, ce que tout le monde a vécu autour de ce France-Nouvelle-Zélande qui va entrer dans la légende. 40 à 25, plus 15, victoire historique, 80 minutes d'émotion, une communion totale avec le public. Quel pied pour le rugby français, on va en parler. 3 matchs, 3 victoires, tournée remportée, une première depuis 2012. Alors si c'est pas un titre officiel, c'est à noter. 40 points dans la musette des Blacks pour la troisième fois après 99 et 2000. Les Bleus ont frappé fort et le séisme a fait le tour de la planète. Sommes-nous aujourd'hui les favoris de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en plus à domicile? Analyse et tentative de réponse d'entre les poteaux. Des frelons, des bourdons. Woki, Ntamack, Djaminé, qui sont les grands gagnants de la tournée? Et à l'inverse, quelle marge de manœuvre pour les absents? Les Chats, Leroux, Dulin, Thomas, peuvent-ils inverser la tendance pour s'offrir une place dans le groupe qui disputera la Coupe du Monde? On en discutera. Le Nord qui chante, le Sud qui pleure, samedi Écosse, Pays de Galles, Angleterre, Irlande et bien sûr France ont pris le dessus sur les nations du Sud. Alors est-ce conjoncturel avec des box ou des blacks cramés ou faut-il y voir une vraie tendance? On est en train de répondre à cette question. Les poteaux, eux, ne sont pas encore complètement cramés. C'est pas une Autumn Nation Cup qui va les arrêter. En plus, il y a de la résilience chez Denis Charvet. Bonjour Denis.
Salut monsieur.
Ça va le vieux rhume, c'est bon, c'est réglé?
Ça commence à sortir. Ouais. Bon, c'est pas fini quand même. Hein.
Bon, on s'est régalé samedi, Denis.
On s'est régalé, ouais, c'est merveilleux.
Manu Massicard aussi, entre les loges et le salon Elyséeum du Stade de France. Jérôme Boehm de champagne à la main, lunettes de soleil et cigares. Quelle star, tu n'es pas passé inaperçu, Manu, au Stade de France.
Merci les amis, mais c'était pas moi, c'était mon sosie. Tout va bien.
Croyez. Tout le contraire de Jeff Paturo et Pierre Amiche qui bossaient tellement qu'ils n'avaient pas le temps hein, pour le Strass et Paillet. De toute façon, c'est pas leur truc. Bonjour messieurs.
Bonjour, la France a peur. Ah non, on n'a plus peur, ça y est, on a gagné.
C'est bon, on a gagné.
Bonjour à tous. Non, le Strass et les Paillet, je laisse ça à Wilfried Templier et Denis Charvet.
C'est vrai, c'est bien. T'as raison, nous on prend. Ouais, allez, c'est parti pour Entre les poteaux, samedi soir. Moi, je sais pas vous, mais nous, les Français nous ont fait rêver.
Le Stade de France se lève, mais on n'y est pas encore parce que les Blacks résistent. Quelques centimètres. Essai et la France qui ouvre le score, Denis. Oh, l'essai Romain Ntamack.
Quelle action
des Français. Ça avance bien, Boubacar qui s'échappe.
Essai
des Blacks signé Hardy Savea. Les Blacks reviennent dans le game, messieurs, dames. Interception de Damien Penaud, l'essai de l'équipe de France. Damien Penaud, l'ailier qui vient marquer son 13e essai en bleu et surtout, Denis, mettre un coup sur la tête des Blacks. Djaminé, 40 points. Victoire historique de l'équipe de France. Jamais l'équipe de France n'avait battu la Nouvelle-Zélande par plus de 15 points d'écart.
C'était la 13e victoire de l'équipe de France en 62 matchs face à la Nouvelle-Zélande. Mais ça faisait longtemps, 12 ans, on était tous même bien plus jeunes lorsque les Bleus s'étaient imposés pour la dernière fois en France, en 2000 à Marseille, 42-33 à l'époque, avec certainement la même fête dans les tribunes parce qu'on l'a entendu encore la samedi, on a eu un Stade de France mais bouillant. Avant de parler stratégie, de parler analyse individuelle, même si bon, on s'éloigne un peu de ce match, on avait envie de goûter messieurs à nouveau à ce moment qui a été à part. Ça faisait très longtemps que le public du 15 de France n'a pas eu un tel rôle à jouer et les Bleus leur ont bien rendu ensuite ça. Et Jeff, raconte-nous un peu cette communion.
C'était incroyable ce qu'on a vécu samedi soir avec une ambiance, cette Marseillaise, un Stade de France, tu l'as dit, bouillant, incandescent même. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Après des mois de Covid, de matchs à huis clos, on s'est régalé. 80 000 spectateurs, plutôt 80 000 chanceux, vénards qui ont donné de la voix du début à la fin, de la Marseillaise jusqu'au clapping à la dernière, après la dernière minute. Un 16e homme tout simplement, selon le capitaine Antoine Dupont, ravi samedi soir.
Dès la rentrée sur la pelouse, l'hymne, je pense que je ne l'ai jamais entendu résonner aussi fort dans ce stade. Et voilà, on a senti vraiment le public qui était derrière nous, qui croyait en nous aussi et qui avait envie de nous voir réaliser cet exploit ce soir, et bien sûr que ça nous a porté, et on sait l'importance que ça peut avoir, notamment dans les moments cruciaux. Donc je préférais être français que néo-zélandais pour ça ce soir.
Ouais, c'était mieux d'être français ce week-end, ça c'est sûr. L'enthousiasme est le même pour Jonathan Danty, lui aussi ravi de jouer devant cette ambiance.
Oui, ça nous a aidé forcément d'entendre le public qui nous pousse dans nos temps faibles, qui nous pousse aussi encore plus fort quand on a des temps forts. Donc forcément, qui plus est, avec la dernière année et demie qu'on a connue, avec la pandémie, ben forcément on a joué avec des stades vides. Donc aujourd'hui, très fier aussi de faire plaisir à nos supporters qui sont venus en masse nous soutenir ce soir.
On rappelle qu'il y avait environ 50 000 spectateurs pour le France-Argentine. On avait été un peu déçus, stade plein à Bordeaux pour le France-Géorgie. Et samedi soir, c'était l'effervescence, l'engouement qui, on espère, va grossir et grossir jusqu'au 8 septembre 2023.
Denis, est-ce que ça joue vraiment quand tu es sur le terrain? Est-ce que tu t'es un jour senti porté par un public? Peut-être à Nantes en 86.
Oui, à Nantes, exactement. Bien sûr, oui, c'était un peu la même euphorie. Ça t'aide forcément, oui. Quand on dit c'est le 16e homme, c'est le 16e homme. Après, je pense que malgré cet appui-là, la France n'avait presque pas besoin de ça, parce que on a vu quand même des joueurs totalement décomplexés. Moi, c'est ce qui m'a le plus bluffé. Des joueurs qui, à l'approche d'un match aussi important, arrivent à relativiser, arrivent à jouer un peu comme on l'a vu sur cette action d'Entamac, qui joue un peu comme dans son jardin, quoi, de relancer dans l'embut face au All Black. C'est du jamais vu, enfin presque du jamais vu, mais oui, c'est. Mais bon, le public, c'était. Nous, on y était, Wilfried, c'était extraordinaire. Après, il y a eu une émotion, une énergie aussi qui fait que. Mais l'énergie était partout. Elle était avec les joueurs, elle était diffuse, et je pense que c'était une alchimie entre les deux, entre ce public-là et les joueurs.
Manu, au-delà de faire du bien en caisse de la FFR, est-ce que ce stade plein, cette ambiance électrique, cette communion, est-ce que ça illustre ce que dégage cette équipe?
Tu as raison, et il y a une vraie communion avec le public. Il s'est passé quelque chose samedi soir. Pour moi, vous dites ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Non, c'est pas ça. C'est la première fois qu'on entend un tel public, une telle ambiance au Stade de France. Pour moi, c'est clairement nouveau. J'en ai fait beaucoup de matchs avec l'équipe de France à Paris et en province, mais c'est digne d'un Marseille, c'est digne d'un vrai chaudron. Et donc ça c'est nouveau au Stade de France, et ça il faudra le garder. Maintenant, l'équipe de France et le Stade de France nous sont redevables, et nous sommes aussi également redevables. Ce match fait date, il va changer quelque chose, et il y aura eu un avant et un après. Un avant parce qu'on a battu les Blacks cette fois, un avant parce qu'on a trouvé une ambiance folle, et aussi parce qu'on a vu le niveau de cette équipe qui, quand elle est capable de se mobiliser, réalise de grandes choses.
Oui, mais Manu, je suis d'accord avec toi, mais le talent, on le connaissait. Le talent exceptionnel de cette génération-là, c'est pas nouveau quand même. On le voit depuis deux ans monter l'évolution de certains joueurs, certains qui prennent le train en cours de route, mais qui se subliment. Moi, je pense surtout que ce qu'il faut voir dans cette évolution de cette équipe de France, c'est sa confiance. C'est-à-dire que le talent, il y est. Et puis même dans les générations passées, il y avait ce talent-là. La confiance est là. C'est-à-dire que il y a une énergie, une force qui se dégage de cette équipe, qui est en train de naître. Alors là, tu as raison, parce que c'est fondateur, ce match sera fondateur, mais cette force collective, elle est en train de prendre. Alors sûrement avec le travail du staff, sûrement avec cette précision, ces détails qui font que la performance, ils ont monté le curseur un peu plus haut avec Fabien Galthié et son staff. Et effectivement, je pense que ce match va changer la donne.
Pierre, samedi soir, on a 6,6 millions de téléspectateurs à peu près. Il y a un pic à 7,6, exactement comme sur RMC d'ailleurs.
C'est les mêmes chiffres.
C'est pareil, nickel, pareil en face. Bon, bref, c'est
parce qu'ils regardent la télé, ils écoutent la radio en même temps.
Plus sérieusement,
tu sais beaucoup.
Ouais. Est-ce que c'est un immense succès? C'est à la hauteur des blagues de ce qu'on pouvait attendre?
Bah, en tout cas, c'est un record depuis 2009. On n'avait pas vu ça. C'était déjà un match face au All Black, un pic d'audience comme ça. Ce qui est curieux, c'est que ça fait moins d'audience que les matchs du tournoi. C'est la troisième performance de ce 15 de France. Il y a deux matchs qui sont devant. Déjà, évidemment, le classique face à l'Angleterre. Et puis, vu le scénario du dernier tournoi, le match face à l'Écosse qui avait réuni 7,6 millions de téléspectateurs en moyenne. Donc oui, évidemment, c'est un immense succès. Un succès, malgré tout, à relativiser, parce que c'est en prime time et c'est toujours des meilleures audiences pour l'équipe de France. Déjà, première chose. Et la deuxième, c'est que France Télé a pu bénéficier, que ce soit sur la 3, avec un magnifique meurtre dans les trois vallées qui réunit 4,4 millions de téléspectateurs.
C'était hyper bien, je l'ai regardé en replay.
C'était super. Moi, je l'ai pas regardé en replay, mais si tu me le conseilles, j'irai le voir. Ouais. Mais en tout cas, France Télé a vraiment tiré son épingle du jeu, en partie parce qu'en face, TF1 avait mis finalement un programme assez moyen avec les Energy Music Awards qui ont réuni que 4,1 millions de téléspectateurs. C'est une des plus mauvaises audiences pour TF1 un samedi en prime time. Mais bravo aux Bleus qui ont réussi à réunir quasiment 7,5 millions de téléspectateurs, plus les 5 millions d'auditeurs. Ça fait un paquet de monde.
Non, 12, je crois. 12.
Ah, oui,
bon,
12, ouais.
Bon, impeccable. Voilà, on voulait vous offrir ce petit bonbon, que vous gardiez bien ça en tête, car ce sera peut-être pas la même, messieurs, avec les Blacks le 8 septembre 2023 pour le match d'ouverture, la Coupe du Monde. Eh bien, justement, la Coupe du Monde, on se projette dessus tout de suite. On se demande même si ça vaut le coup de la jouer. On plaisante, puis c'est pas trop notre genre, nous les journalistes, de nous enflammer évidemment dans un sens ou dans un autre, c'est important l'autocritique. Mais bon, tout en faisant l'analyse du jeu puis des joueurs, on se demande si cette victoire ne nous propulse pas légitimement parmi les favoris au titre mondial. Alors Jeff, certains le pensent, tu vas nous expliquer pourquoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette prestation a été remarquée partout dans le monde, avec vraiment des journaux et des médias un peu partout qui ont été dithyrambiques, notamment en Nouvelle-Zélande. Eux, ils ont bien taillé le All Black, mais aussi souligner les qualités des Français flamboyants et inspirés. Le 15 de France, fabuleux tout simplement, a fait la leçon à des All Black en chute libre. Voilà ce qu'indique le New Zealand Herald. Il y a des sites spécialisés également en Nouvelle-Zélande pour qui citent un match très magnifique en français. Des hommes de femmes égaltiques ont impressionné, magnifique, qui ont impressionné avec cette première période vraiment aboutie, 24-6. Et même dans les îles britanniques, là aussi, des louanges, même si évidemment la plupart des médias étaient concentrés sur la victoire de l'Angleterre contre l'Afrique du Sud. Un exemple, malgré tout, dans le Daily Mail, qui s'enflamme pour Romain Ntamack, qui a symbolisé, je cite, la quintessence du sang-froid français, alors qu'il a ébloui contre les All Blacks sa soirée de couronnement, tout simplement. Mais du côté du staff de l'équipe de France et des joueurs, on refuse de s'enflammer, alors que quel est le statut de cette équipe de France ? A-t-il changé avec cette victoire contre l'une des meilleures équipes de la planète ? Sont-ils désormais favoris ? La réponse du sélectionneur.
Difficile de faire un bilan, alors qu'on est lancé, qu'on est sur un chemin qui nous amène plus loin, mais c'est vrai que sur la construction de la tournée, sur la manière dont on a managé le groupe, il commence à y avoir vraiment des repères collectifs forts, une expérience collective qui nous permet d'être dans le coup jusqu'à la fin du match. Ça, c'est de la satisfaction, je dirais, qui se confirme. Ça veut dire que l'équipe, elle est en place collectivement, elle a des atouts, elle a des armes à disposition. C'est pas ce résultat qui fait de nous un candidat au titre mondial, c'est notre ambition, c'est la manière dont on vit l'expérience et la préparation et ce chemin depuis 2 ans. C'est notre façon de vivre, notre ambition.
Et l'ambition, évidemment, ce sera de confirmer. Et on rappelle que le succès est historique et pas vraiment anodin, puisque l'équipe de France restait sur 14 défaites consécutives face à ces Néo-Zélandais. C'est la plus large victoire de l'histoire face aux All Blacks. Et le message est évidemment lancé à moins de 2 ans de la Coupe du Monde pour le plus grand bonheur de l'ami Denis Charvet, Bernard Laporte, qui reste malgré tout mesuré.
Les joueurs ont compris qu'ils sont à ce niveau-là, c'est-à-dire ce niveau de gagner une Coupe du Monde. Mais après, ça ne tient à rien de gagner une Coupe du Monde, on le sait. C'est déjà bien de se dire on y est. Mon message, il est clair. Depuis le début, je dis qu'il faut être sur la grille de départ. Il faut faire partie des 3-4 équipes qui peuvent être champion du monde. Je crois pas que nous ne l'étions jamais. Voilà, il y a 2 ans, on faisait un exploit parce que les autres allaient dans le fossé, on peut se retrouver en finale, puis on perdait, etc., etc. Une équipe qui veut être champion du monde, c'est une équipe qui gagne régulièrement, qui a des statistiques positives. Et maintenant, il reste 22 mois à cette équipe, à commencer par un tournoi destination dans 2 mois et demi, qui sera important.
Un tournoi qui commencera par l'Italie, une réception de l'Italie. On rappelle que le tournoi 2022 sera favorable sur le calendrier, sur le papier, avec seulement 2 déplacements en Écosse et au Pays de Galles, avant pourquoi pas une finale tant attendue à domicile contre l'Angleterre.
Merci Jeff. Juste avant de vous donner la parole, on a eu quelques anciens internationaux le lendemain du match. Favori ou non, écoutez la réponse de Thomas Castagnet, 54 sélections en bleu.
L'équipe d'Angleterre qui a battu l'Afrique du Sud était une équipe, pour moi, qui n'est pas encore du tout à maturité. L'Afrique du Sud est une équipe qui est très prévisible, alors dur à jouer, mais quand même très prévisible, avec beaucoup d'intensité physique, mais beaucoup moins de flair que l'on peut avoir, beaucoup moins de talent dans le jeu. Je crois que l'équipe de France aujourd'hui produit réellement le meilleur jeu et propose des individualités qui aujourd'hui se placent pour la plupart dans les meilleurs joueurs du monde. Et ce qui est à la fois aussi impressionnant, c'est que ces joueurs-là, j'ai le sentiment qu'ils ne voient ce match-là que comme une étape. On n'a pas senti de joie démesurée à la fin du match. Ils étaient heureux, bien sûr, mais je crois qu'ils sont en mission. Et j'ai vraiment le sentiment qu'ils savent qu'ils peuvent faire bien plus encore. On peut rentrer dans une Coupe du Monde, non pas en étant des outsiders, mais en montrant qu'on peut être des favoris et peut-être la remporter.
Denis, tu es d'accord ? Est-ce que ce match change quelque chose dans la perception des Bleus ?
Des Bleus, c'est-à-dire des joueurs ?
Non, la perception autour de chez les autres, le message qu'ils ont envoyé chez les autres. Est-ce que ce match change quelque chose?
On l'a dit pendant, l'après-match ou même l'avant-match, il fallait envoyer un signal fort au monde du rugby. il faut pas promettre, il faut maintenant il faut des actes, et les actes c'est la gagne, hein, c'est le tu peux pas construire un titre champion du monde sans sur le parcours gagner des matchs pour ben justement te fabriquer cette confiance là qui fait la différence. On l'a vu à samedi soir, mais oui, je pense que le respect va grandir et que la crainte va grandir chez les autres. Et quand tu vois les Anglais qui ont été massacrés en mêlée par les Sud-Africains, il me tarde d'être au France-Angleterre de février prochain ou mars prochain.
Mais qui ont quand même gagné, on précise, les Anglais.
Ils ont volé.
On en parlera tout à l'heure, ouais. On n'est pas d'accord. Manu, on va essayer de parler de collectif. Est-ce que cette équipe n'a pas passé un cap en termes de maturité collective là?
Si, on peut le penser quand on voit tous les changements qui ont été faits, et puis dans la maîtrise aussi de son rugby, parce que d'entrée on a joué les Blacks comme on devait les jouer en allant les chercher, mais peut-être à contre-courant par rapport à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup moins de jeux sur la largeur. On s'est retrouvé dans un défi individuel autour des points de regroupement où il a fallu aller chercher les Blacks pour les marquer et pour les donner. Et ça, cette équipe qui est jeune, elle l'a parfaitement maîtrisé. Et c'est là où je pense qu'elle a progressé, c'est qu'elle est restée dans son match. Pas jusqu'au bout, mais pendant toute la première mi-temps, au moins, elle est restée dans son match. Après, il y a le coaching qui a amené beaucoup plus d'incertitudes. Après, les Blacks ont eux mieux coaché et l'apport du banc a été plus supérieur au nôtre. Mais il est certain que cette équipe, oui, elle a progressé là-dessus.
Pierre, moi, je voulais te faire cette offrande de parler de la performance des avant-français samedi soir. On parle souvent des Dupont, des Tamac, des Jaminet, là, et on va encore le faire juste après, hein. Mais c'est vrai que depuis le match, on n'en a pas trop parlé, mais ruck, touche, mêlée, défense, les gros en bleu, ils ont fait très très fort samedi.
Ils ont fait très très mal, surtout, vous regardez les 40 premières minutes, j'ai rarement vu une équipe de Nouvelle-Zélande aussi violentée, dominée, parce que ce qu'ont réussi à faire les Irlandais, ils l'ont fait sur 80 minutes, mais surtout dans les 30 dernières minutes où ils leur ont marché dessus. Alors que là, l'entame des Néo-Zélandais, elle est catastrophique, et celle des Français, elle est merveilleuse. Alors je sais pas s'il y a un bémol à apporter, parce que ce qui ressort, la première fois que j'ai vu le match, en direct comme vous, je me suis dit, oh là là, ce que les Français sont en train de faire, c'est colossal. On a trouvé un pack monstrueux, des joueurs comme Cyril Bailly, c'est le meilleur gaucher du monde. Enfin, vraiment, j'ai été ébloui par les Français. Puis en regardant une deuxième fois, j'ai été surpris par une chose, c'est que j'ai l'impression que les Blacks n'ont pas joué leurs duels. Ils ne sont pas contentés de les perdre, ils les ont même pas joués.
Ils n'ont pas joué parce qu'ils ne pouvaient pas les jouer.
Ils ont été agressés, d'accord,
oui, mais
je me demande dans quelle mesure ils n'ont pas été même un peu suffisants avec ces jeunes bleus. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, en fait. C'est-à-dire que oui, domination outrageuse dans les rucks. Oui, sur la mêlée, surtout les dernières mêlées, humiliation complète des Blacks. Mais en touche, je suis désolé, en touche, on a un sauteur, Cameron Mauchi. Il est capitaine de touche et un sauteur. Et les Blacks en face n'ont pas trouvé la solution pour le contrer alors qu'ils ont trois sauteurs.
Ouais, il est très fort, bon. C'est très fort.
Oui, très fort dans les airs. Très varié, bien sûr. Ouais. Mais les variations sont quand même très faibles.
Oui, mais il faut aller chercher dans les airs. Tu me fais rire. Le timing joue aussi. Mouvaka, je lance très très bien. Il y a quand même un timing dans la touche. C'est là où tu peux rendre hommage à Karim Ghezal qui doit faire un travail formidable. C'est aussi la préparation d'avant-match, ça. Hein.
Je te reconnais bien.
Et vous avez fait la fête samedi soir ou
pourquoi?
Ben vous avez oublié les touches perdues.
Il y en a deux, exactement. Trois même.
Les contres.
Deux, il y a deux.
Plus que ça.
Non.
Et il y en a une qui est un combat Mouvaka et les autres, c'est au contre. Et sans doute que Woki est un peu trop tendre. Enfin, dans son commandement.
Il n'a pas assez varié.
Il a peut-être un petit peu l'expérience. Il n'a pas assez varié, exactement.
Mais il ne peut pas varier.
Après,
il n'y a
qu'un vrai sauteur. Après, les Blacks, quand tu parles des Blacks, je pense que les Blacks ont été secoués, mais c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas.
On a vu quelques images d'arcade de nez ouvert. Enfin, pas de nez, mais des Blacks marqués. Non, mais sur le banc, hein,
quand tu
le
vois Danti qui met Rétalique sur le cul, il faut pas dire les choses comme elles sont. Tu te dis, mais quand même, ils sont dans un autre. Je pense que les Blacks ont été surpris. C'est pas pour moi, c'est pas la suffisance. Parce que les Blacks sont toujours prêts au combat. Je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel combat. Et d'ailleurs, les Français l'avaient annoncé, donc tout était programmé.
J'aurais été d'accord avec toi, Denis, si de la 40e à la 60e,
on
prenait pas le bouillon.
D'accord, oui, mais après, les Blacks restent les Blacks.
Mais ça veut dire qu'ils ont changé de logiciel à la mi-temps.
Oui,
c'est pas simplement
oui.
qu'ils ont été pris physiquement, pas qu'ils ont été simplement dominés. Je pense qu'aussi, il y avait peut-être une petite pointe de suffisance dans leur approche du match.
Ils ont été piqués dans leur orgueil, c'est un fait. Mais après, ils sont revenus à des bases, à leur base. C'est-à-dire, on dit, on fait du pick and go, maintenant, on donne plus le ballon derrière. C'est fini, ils ont caché le ballon. Ils ont marqué trois essais comme ça. C'est la stratégie aussi, c'est intelligent.
Oui, et puis nous, on s'est quand même rendu la tâche difficile. Hein,
et parce puis, que je pense quand même aussi, nous.
Trois fois alors qu'ils font rien.
Et je pense quand même que nous, on était un peu quand même fatigués de cette première mi-temps où on a donné beaucoup de force dans la bataille. Et quand on est revenu des vestiaires, je pense quand même que ça a joué. Et les Blacks sont revenus avec l'orgueil et ils nous ont vraiment fait mal pendant 20 minutes.
Voilà, je disais que ce serait pas les mêmes précédemment, Manu, excuse-moi, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire, au-delà de la performance française, qui semblait lessiver les Blacks, est-ce que c'est politiquement correct
oui.
de dire ça?
Ah,
est-ce
qu'on peut le dire? Oui, bien sûr. Tu es obligé d'en
parler. Et c'est pas une très grande équipe All Black non plus.
Non, c'est une grande victoire contre une petite équipe. Mais quand même une grande victoire.
Ce qui m'inquiète, les Blacks, excusez-moi, au-delà de l'absence de Barrett, de Boden Barrett, qui est pour moi un joueur incontournable à l'ouverture.
Son frère était excellent.
C'est la pauvreté de certains joueurs. Je suis assez inquiet pour eux. S'il n'y a pas le réservoir, se remplit pas. Si des ovnis n'arrivent pas sur la route très vite.
Et les cadres commencent à être vieux.
White Clock ou même Rétalic, ouais. Après, voilà, c'est des joueurs qui sont usés. Je me demande si dans deux ans, ces joueurs-là.
Ouais, 33 ans, White Clock.
Oui, mais rappelez-vous, Thorne, à 37 ans, il marchait sur la gueule de tout le monde.
Oui, moi,
et surtout.
Moi aussi, à 45.
Ouais, non, mais surtout, il ne faut pas oublier que là, ça fait 4 mois qu'ils sont en tournée. Ils ont eu un protocole Covid horrible. Ils sont tapés des déplacements aux États-Unis pour revenir en Europe. Ils jouent tous les 6 jours. Vous avez vu la gueule qu'ils avaient. C'est pas que les Français qui leur ont abîmé le visage comme ça. Il y en avait certains qui étaient marqués depuis 3 semaines, 1 mois. La saison était très longue. Là, ils vont pouvoir couper. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que, oui, on parle de Boden Barrett, mais le Aaron Smith, il est arrivé,
il pouvait être cramé.
Il avait 60 minutes dans les Gibbons.
Non, il avait 60 minutes, il avait 0 minutes.
Voilà, il manque un ailier titulaire. À l'arrière, j'imagine que Richie Mounga va redevenir titulaire, Boden Barrett va passer à l'arrière.
Je suis pas sûr, mais il y aura un autre joueur peut-être.
Je pense, en tout cas, il sera meilleur que son frangin, Jordan Barrett. Il manquait Scott Barrett, qui est quand même un leader de combat. Il y avait quand même des absences.
Moi, j'ai trouvé un joueur extraordinaire côté Black. Je comprends pas qu'il soit pas titulaire, c'est Avili. Je trouve ce joueur absolument incroyable.
C'est lui qui se fait intercepter le ballon.
Oui, malheureusement, il se fait intercepter. Tu as raison,
mais il y a plein de joueurs qui étaient pas là. Denis Blackadder et Papa Elie, qui avaient plaqué tout ce qui bougeait à Dublin, ils étaient même pas sur la feuille de match. Donc ils ont encore un peu de réserve. Juste, Manu, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, vous avez tout dit. C'est
ça. Non, merci.
Vous avez fait le job, bravo les mecs.
Bon, bah, non, blague à part.
Blague à part, cette équipe, on peut pas dire qu'elle a pris le match. Par-dessus la jambe. Je pense pas qu'ils étaient absents. Par contre, souvent, en fin de saison comme ça, ils sont fatigués. Là, ils l'étaient peut-être encore plus que de raison. Mais faut pas non plus se tromper, hein. On bat les Blacks.
Tu
leur mets 40 points, c'est en plus. Tu mets 4 essais.
Je voulais juste signaler que le 8 septembre 2023, au point de vue physique, ils seront certainement à un autre niveau.
Mais bon. Et c'est là l'enjeu. Et c'est là toute la décision. Est-ce qu'on a battu les meilleurs du monde? Et est-ce que, de fait, on est candidat au titre direct? Je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Cette victoire, elle compte évidemment, mais il est trop tôt pour nous dire oui, on a de quoi être champion du monde. Les Blacks en 2023, ça va être une autre affaire.
Non, mais d'accord.
Et on leur remarchera pas dessus comme on leur a marché dessus.
Mais là où je suis d'accord avec Bernard Laporte, son discours, c'est qu'effectivement maintenant l'intérêt se sera placé.
C'est rare quand t'es d'accord avec Bernard.
Non, mais les trois. Mais quand il dit, c'est vrai que on est arrivé parfois par défaut en finale. Il faut pas se cacher. Mais on n'a jamais une équipe pour être champion du monde. Aujourd'hui, on peut penser qu'on a une équipe pour être champion du monde.
95 et 2003. Si, 95.
Ouais, j'aurais mis 2003. Oui. J'aurais mis 2003.
95, si.
Oui, mais enfin, 2003, t'as dans l'Angleterre, tu la prends pas au bon bout.
Non, plus en 95. Mais si on gagne en Argentine, on gagne en Afrique du Sud, on gagne en Nouvelle-Zélande, les tournées.
Non, 95. Mais je veux dire, 87, là il me semble que tu as raison que les Blacks, moi je suis d'accord avec toi, Manu, il faudra se les peler quand même dans deux ans, même si je dis qu'il n'y a pas la génération espérée. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui peut devenir champion du monde. Enfin.
Alors, c'est la victoire du staff aussi, hein, messieurs. Hein, c'est indéniable. Fabien Galthié a parfois été lyrique, comme il sait le faire. Il a parfois aussi été agaçant, un brin cassant, comme avant et après la Géorgie. Mais reconnaissons que lui et ses adjoints ont bien géré la tournée. Sur quel aspect? Le management, avec les désormais fameux finisseurs, les choix de poste. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez, Denis? Qu'est-ce que tu retiens? Une chose de Fabien Galthié à l'automne, là. Un choix.
Le choix fort de sortir Jalibert de l'ouverture à la 55e minute contre la Géorgie, de replacer Mtamak à l'ouverture, parce que en plein match, il nous a dit que c'était préparé, ça n'a jamais été préparé. Ça, c'est un grand mensonge, et qu'il s'est dit, maintenant, je vais le remettre à l'ouverture parce qu'il va démarrer contre les Blacks, c'est tout. Et que ça, c'est très intelligent, c'est très courageux, et que tout d'un coup, il avait essayé un truc, ça ne marchait pas, il s'en est rendu compte dans l'instant T, et il a tout chamboulé, et au final, mais c'est, ça lui a donné raison, parce que Romain est un ouvreur, ne sera jamais un centre. Je pense que ce joueur ne peut pas jouer centre parce qu'il ne le veut pas, tout simplement, et que c'est un leader de jeu, et qu'il a besoin d'être leader.
Moi, Denis, je vais retenir un seul truc, c'est la gestion d'Aldrit, qui au début était remplaçant, et ouais, qui a fini titulaire, et qui fait un de ses meilleurs matchs en équipe de France, face au Black. Et on l'avait quasiment dit, perdu, bouilli, fini pour la saison, il serait bon en février. Alors, en tout cas, moi, je le pensais, et en fait, bah non, Aldrit est, s'est imposé comme non seulement le numéro 8 des Bleus, parce que Jelonch à côté en 7, c'est monstrueux, mais Aldrit en 8, il remonte tous les ballons, il est très fort. Et surtout, Aldrit, il s'est imposé comme un 8 légitime aux yeux des autres équipes. Et il y a qu'à voir dans la manière dont on parle de lui à l'étranger. C'est
on peut dire d'un mot d'un joueur qui est pas Rochelet ou pas?
On peut, bien sûr.
Cameron Wauquiez en deuxième ligne.
Attendez, parce que vous partez dans le, on a un conducteur dans entre les poteaux, hein. C'était un très bel enchaînement, au contraire, ce qu'avait dit Pierre, parce que le bilan entre le début de la tournée et la fin, c'est pas le même. Les gagnants et les perdants, messieurs, c'est maintenant.
RMC, entre les poteaux.
Lancé comme un frelon.
Vous leur laissez un peu, ça y est, là. La meute, là, ils partent et tout.
Le remplacement de Wauquiez, c'était un choix du staff.
Mais, oui, mais tu vas en parler quand tu vas parler de
Wauquiez.
Il est fâché.
Allez, le trophée pouvait revenir de frelon, tout simplement, du match, revenir à Romain Tamac pour l'ensemble de son œuvre, hein, où Melvin Djaminet, c'est 20 points à 100% au pied. Mais voilà, on a plutôt choisi de faire un bilan de cette tournée parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, il s'est passé beaucoup de choses, de la Jalimac à Wauquiez, justement, en deuxième ligne. On a commencé avec Awas à droite, on a fini avec Antonio. Je vous propose quelques noms, vous choisissez vos coups de cœur: Dupont, Tamac, Djaminet, Movaca, Wauquiez, Baye, Penaud. Vos gagnants, Denis.
Movaca et Djaminet.
D'accord.
Grand gagnant. Movaca, la surprise du chef.
Ouais.
Parce que c'est pas qu'il part de loin, mais remplacer un Julien Marchand au pied levé comme ça et marquer 5 essais, c'est pas anodin, c'est pas neutre. C'est-à-dire que c'est une révélation, quoi. Voilà. Et puis Djaminet, c'est l'ovni pour moi qu'on annonçait et que lui, il est assez phénoménal, quoi.
Manu, le gagnant de la tournée pour toi, ou le coup de cœur, le joueur.
Wauquiez, Ntamack, et puis Antonio en pilier, qui s'est rappelé un autre bon souvenir.
D'accord, Jeff.
Melvin Djaminet, moi aussi comme Denis, puisque on rappelle que Djaminet avait connu ses premières sélections cet été, ouais, les trois premières avec une équipe bis ou terre en Australie, qu'il avait été déjà bon malgré une cagade en fin de match et le staff l'avait conforté. Et là, il enchaîne, ça fait 6 titularisations de suite avec ce 15 de France. Il compte seulement 5 matchs de top 14. Il est buteur fiable et pour moi, il était face à un plafond de verre contre la Nouvelle-Zélande. Il s'en est très bien sorti.
C'est vrai. Pierre,
Cyril Baye, qui est le meilleur gaucher du monde, et puis François Cross, dont on parle finalement assez
peu, qui est monstrueux. Ah oui, celui-là, ouais, on en parle peu, mais le poison dans les rocs.
Moi, je voudrais rendre hommage aussi à Antoine Dupont, parce que le rôle du capitana, c'est pas évident.
Ah, Denis, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que justement, avant de parler des perdants, mon cher Denis, on est en face, il y a une question sur ma petite feuille qui va faire bondir Denis, parce que lui a la réponse. J'avais envie de dire, lui a la réponse, vous allez voir, c'est une expérience, c'est comme en chimie. J'allais dire, si je vous parle de capitana, j'attendais que tu bondisses, surtout. Ouais. Parce
je trouve qu'il a assumé, comme on le connaît, quoi. Et
Denis, ça pose une autre question derrière. Ça pose une autre question derrière sur ce capitana. Et t'as peut-être
par
un avis.
Par rapport à Charles Oliban.
Eh ben oui, la suite.
Je pense que, mais mon avis, c'est qu'ils le changeront pas, que maintenant je pense que jusqu'à la Coupe du Monde, s'il est pas blessé, il sera capitaine de l'équipe de France. Pour moi, c'est fini.
Je ne fais pas de pari.
C'est une vraie question, Jeff, non? On peut pas assister à une passation de pouvoir comme il y avait eu entre Lionel Dallet et Thierry Dussautoir en novembre 2008?
Moi, j'ai un doute. Le fait d'avoir invité Charles Olivon dès le début, que ce soit lui qui fasse la passation, si Charles Olivon retrouve un statut titulaire, il sera capitaine selon moi.
Mais c'est ça la question. Est-ce qu'il va se trouver
à la place de qui maintenant?
À la place de qui? Et puis titulaire, attention, il va falloir.
À moins qu'ils mettent Charles Olivon deuxième ligne comme Cameron Wauquiez, j'ai du mal à imaginer.
Puis Charles Olivon, il va revenir quand? Il va revenir en mai?
Ouais, pour le tournoi,
peut-être avant.
Courant tournoi, peut-être.
Mars,
encore, ça va être juste.
Et puis, pour le mettre à la place de qui? Parce que Aldrit, Jelonch, Cross, c'est très fort. Dylan Cretin, dans ce qu'il apporte, c'est différent. Cameron Wauquiez en deuxième ligne, on aime ou on n'aime pas, mais il a fait ses matchs.
Mais avec Antoine Dupont, ce qui est incroyable, c'est que finalement, On en parle très peu sur le match des Néo-Zélandais. Les gens, ils sont un peu mitigés, mais moi, je le trouvais très bon.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est-à-dire que lui, maintenant, on est en train de relativiser ses performances.
On le banalise.
Alors que si vous voyez son match, si tu vois son match, il défend comme il est toujours au relais. C'est lui qui est au relais. C'est lui qui remet de l'avancée d'entrée. Donc, il a quand même, il fait un match énorme. Et on le relativise.
Et ce qu'on oublie, pardon, excuse-moi, Wilfried, ce qu'on oublie, c'est qu'il défend sur le premier rideau.
C'est-à-dire
qu'il plaque comme un troisième ligne.
Défensif.
C'est impressionnant.
Et je suis sûr que s'il n'y a pas cette action où il perd un peu de lucidité, je sais pas.
Genre, il perd le ballon là quand
il perd le ballon, il y a essai de Johanné. S'il n'y a pas cette action-là, sa prestation, elle aurait été autre.
Après les frelons, les bourdons, ceux qui ont un peu mal à la tête cette semaine, ceux qui n'étaient pas là, je vous le dis, hein, les chats, Oumpatin, Leroux, Pesanti, Carbonel, Dulin, Serin. Alors il y en a qui étaient blessés, hein. Teddy Thomas, Vakatawa, il y en a qui étaient blessés qui vont revenir.
Teddy Thomas, il va revenir. Je vois pas ce talent pur qui.
Mais tu penses?
Il était blessé, hein.
Oui, il était blessé. Je pense que lui, il va revenir dans le circuit.
Dulin?
Vakatawa, lui, s'il remet l'église au milieu du village, il sera titulaire. Parce que c'est un monstre. Donc, il va y avoir de la concurrence. Et Dulin, ça va être compliqué, quoi.
Manu, pour qui on peut être inquiet?
Oukpatin qui va devoir fader au talonnage Bourgarit, il va falloir qu'il s'accroche et chasse la même. Et puis Brice Dulin aussi qui aura besoin de se relancer. Mais j'ai tendance à penser que Brice on le reverra pour le tournoi.
D'accord. Mais Jeff, Jeff c'était quand même la tournée à pas louper, hein. Alors on annonce 70 joueurs déjà utilisés par Fabien Galthié.
Ouais, c'est
Jeff,
ça.
Le groupe va se fermer, tu penses?
C'est la logique de Fabien Galthié. Déjà, il avait annoncé un groupe resserré. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de nouveaux que ça. Si vous regardez, il y en a deux en plus sur cette tournée, notamment Mathis Lebel et Maxime Lecu contre la Géorgie, Thibaut Flamand au premier match. Il n'y en a pas beaucoup. Et l'idée, ça va être de monter en puissance, puisqu'on rappelle que Fabien Galthié voulait un groupe avec une moyenne d'âge de 28 ans, 50 sélections. Le Covid a un peu tout changé, un peu pour suivre les principes d'Eddie Jones, mais cette équipe de France va se resserrer à moins d'un ovni qu'aurait pu être par exemple Nolan Logaret comme troisième demi de mêlée ou pourquoi pas pour la tournée l'année prochaine au Japon. Pour le tournoi,
il
n'y aura pas beaucoup de changements.
Non.
Ce sera peut-être pour la tournée l'année prochaine en fonction des demi-finalistes ou pas, quoi.
Bon.
De toute façon, il y a une ossature qui s'est dégagée. Il y a un groupe qui s'est dégagé.
Il peut se passer des choses.
Des choses, mais pas énormément de choses. Je suis d'accord avec Jeff. Il faut arrêter de la qualité là.
C'est la tournée qu'il fallait pas louper.
Oui, bien sûr. Mais après, c'est l'histoire du 15 de France, hein.
Oui, et puis on dit ça. Et puis s'il y a un gars qui se pète pendant le tournoi, la tournée des tests sera celle qu'il aurait pas fallu louper parce que si on a un nouveau match
c'est
référence.
Ça. Exactement.
En fait, faut être patient. Ce qui est sûr, c'est que Fabien Galthié a des principes et des joueurs sur lesquels il va s'appuyer. On connaît les leaders. Le seul leader qui manque aujourd'hui, un véritable leader de touche, parce que Cameron Wauki est replacé en deuxième ligne, c'est un leader de touche, on va dire, d'opportunité.
Ah, Scrocross est un leader de touche. C'est...
Oui, mais il n'a pas été là. Et puis j'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui, leader de défense de touche. Enfin voilà, globalement, je pense que Fabien Galthié sait où il veut aller et avec qui il veut y aller. Reste maintenant une interrogation, est-ce que les joueurs sur lesquels il compte, ils seront disponibles? Parce que là, il reste encore deux ans, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir aussi des grosses gamelles en championnat et des joueurs qui sont plus en confiance.
Maintenant, et c'est ce qui est très intéressant pour cette équipe de France, on en enlève un, on en met un autre, ça fait la même performance. Prochaine liste, début janvier. Premier match du tournoi le dimanche 6 février, France-Italie, et ensuite dans l'ordre France-Irlande, Écosse-France, Pays de Galles-France et enfin France-Angleterre. On a déjà hâte, ça nous permet d'enchaîner sur le week-end européen très très vite, enfin d'entre les poteaux. Voilà, très vite, parce qu'on était très bavards sur cette équipe de France. Alors, on voulait faire un petit tour de tous les matchs, on n'aura pas le temps. Juste, messieurs, la victoire de l'Angleterre, on va dire, allez, on va garder ça là, sur l'Afrique du Sud. Sur une pénalité à la fin avec un carton jaune, mais on le reverra tous ensemble. Colissi, il saute, il regarde le ballon, mais il attrape l'anglais en l'air. Si tu mets jaune, c'est pas scandaleux pour moi non plus.
Ils sont pénalisés sans arrêt.
Bref,
les Anglais, ils n'ont pas de
carton jaune. Est-ce que les Anglais sont au même niveau que nous? Est-ce qu'on est taille-taille avec les Anglais?
On est bien meilleurs qu'eux.
Vraiment?
Ouais. Devant, ils ont explosé. Sinclair, c'est un popcorn. Il a explosé en mêlée. la mêlée anglaise est déroutante, mais je pense qu'on va leur faire mal.
On est bien au-dessus de Manu. Est-ce que tu es d'accord avec Denis?
Non, pas forcément. En revanche, on a un joueur que personne n'a. Il s'appelle Antoine Dupont. C'était l'Oscar Monde Midi Olympique et je vous annonce qu'il sera probablement. Enfin, je mets mon billet. Je suis prêt à parier un resto avec qui veut.
Non, mais
il sera meilleur joueur du monde.
La cote doit pas être très élevée.
Séquence,
c'est un gros gros pari ça.
Et ça ils l'ont pas. Ça personne ne l'a. Donc si on a encore un grand Antoine Dupont, franchement on est devant. Oui, bien sûr.
Attention le facteur X. Juste, faut rappeler que les sudistes étaient épuisés, ils sont arrivés exsangues après 4 mois non-stop. Tirer des conclusions après une tournée comme celle-là, c'est un peu compliqué. Mais n'empêche que dans le Nord on les a poutrés et que ça c'est quand même positif et qu'on se rappelle au mauvais souvenir de 2015 où les 4 demi-finalistes de la Coupe du Monde, c'était Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Il y a peu de chances que ça arrive chez nous en France en 2023 pour deux raisons. La première, c'est que les Français sont très forts. Et la deuxième, c'est qu'on n'est pas les seuls en Europe à être costauds. Les matchs de l'Irlande et du Pays de Galles qui ont gagné chacun dans des manières et des styles très différents nous rappellent qu'il ne faut pas trop rigoler quand même avec les rouquins et qu'ils peuvent casser la bouche à peu près n'importe qui. Et surtout, les Irlandais ont été assez costauds.
C'est bien de dire ça, mais moi, j'étais impressionné par l'Afrique du Sud. Impressionné. Je pense que lui, c'est un des favoris de la Coupe du Monde.
Juste une petite stat, c'était pas arrivé que les trois gros de l'hémisphère sud perdent le même week-end depuis 2002 contre les nations européennes.
Et bam, bravo, ça c'est la plus belle
Ça c'est le chef qu'on aime.
Merci, au revoir.
Donc c'était quand même assez rare. Bon, ils sont cramés, mais bon,
battus quand même.
Mais battu pour quand même. Bon, écoutez, on verra ça dès le week-end des 5 et 6 février. Un peu plus de 2 mois d'ici là, le retour du top 14 dans quelques jours. Il y aura la Coupe d'Europe aussi. Et Antoine Dupont, Manu l'a dit, va être nommé meilleur joueur du monde. On va pas le donner non plus à Maro Itoje. Vous dire pour finir que ça fait 14 jours que Denis et Manu doivent honorer leur pari et nous payer le resto.
Pas le cas. On n'avait pas mis de date.
On lâchera rien.
Excuse-moi.
Mais c'est pour rappeler.
Il n'y a pas marqué une date au calendrier.
C'est pour rappeler. Qu'on fait une bise à Christophe Cessieux.
Bon week-end.
Et qu'on remercie Julie à la réalisation. Merci de nous. Vous êtes fidèles, vous êtes de plus en plus nombreux, comme dirait le vieux talonneur Moscato. Et on espère que vous vous êtes régalés. Bonne semaine, les potos.
Bye
et puis à la semaine prochaine. Ciao.